Bonsoir, je m'appelle Takahiko Tanaka. Je vous ai écouté parler, monsieur Mérieux, en me reconnaissant pleinement dans vos propos, en me sentant également très stimulée par votre intervention sur le plan intellectuel. Permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je suis un disciple de monsieur Teruhisa Horio qui vient de parler. Disciple, pas seulement au sens formel du terme, je suis véritablement son disciple. J'étais étudiant en maîtrise à la fin des années 60, à l'époque où il y avait tous les mouvements étudiantins, et j'apprenais auprès de monsieur Horio. Parmi mes spécialisations figure la pensée de l'éducation, et cette pensée de l'éducation, eh bien, c'est quelque chose qui m'a été transmis pratiquement de façon totale par M. Rolio. Et en même temps, depuis les 10 dernières années, j'ai essayé de développer au Japon un nouveau champ d'études dans le domaine de l'éducation, ce que nous appelons les études cliniques dans le domaine de l'éducation. Ces études cliniques, elles consistent à s'intéresser aux enfants en difficulté, aux enfants en difficulté à l'école, mais aussi dans la vie quotidienne. Il s'agit d'étudier chaque cas l'un après l'autre, d'analyser les problèmes de relations humaines et de remettre en cause l'éducation à travers le cas de ces enfants à problème. Ces enfants en difficulté, quand il s'agit de cas graves, ils ont besoin d'une aide coordonnée qui associe un soutien pédagogique, mais aussi des soins médicaux, une intervention des services sociaux et également l'aide de spécialistes de la psychologie clinique. Donc, ce travail d'études cliniques de l'éducation, c'est un travail qui se fait en coordination, en coopération avec les autres domaines que je viens de citer. Tout en menant ces recherches, ces études cliniques sur l'éducation, je me suis aussi intéressée à la formation des enseignants. C'est un travail que j'ai mené dans le cadre du Congrès de pédagogie du Japon. La méthode à laquelle je suis la plus attachée dans ce travail, c'est d'avoir un dialogue direct avec les enfants qui sont les acteurs, les sujets de la vie qu'ils doivent mener, de l'apprentissage, de la coexistence. Parler avec les enfants, dialoguer avec eux, les écouter, faire aussi des entretiens avec ces enfants pour comprendre comment ils appréhendent la vie, c'est une part essentielle de mon travail et moi-même, je travaille ou j'ai travaillé comme conseiller dans des écoles. J'ai été très intéressée par ce que vous avez dit sur un système centré sur une recherche documentaire. Pour moi, cette recherche documentaire, il faudrait l'appliquer à l'enseignement, c'est-à-dire écouter ce que disent les enfants et sur la base de ce récit des enfants, réformer l'éducation. Voilà pour ce préambule. Je voudrais donc, puisque je parle dans mon travail beaucoup avec les enfants, vous dire comment je perçois l'état des enfants aujourd'hui au Japon, la situation dans laquelle ils se trouvent. Je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps, je ne serai donc pas très long. Et après cette description de ma perception de l'état des enfants, pour faire le lien avec votre intervention précédente, Monsieur Mérieux, je me permettrai de vous adresser un certain nombre de questions. Monsieur Rolio a parlé de l'inflexion néolibérale dans la politique japonaise, problème que nous connaissons donc depuis une dizaine d'années. Et c'est également depuis une dizaine d'années que toutes sortes de difficultés apparaissent avec les enfants, les problèmes de brimade dont on parle beaucoup, qui sont considérés comme un des aspects les plus représentatifs, les enfants qui n'arrivent pas à établir de bonnes relations avec leurs camarades, et donc dans ce déficit de relations entre les enfants, il y a un pour les brimades. Il y a également le problème des enfants qui refusent d'aller à l'école, qui se terrent chez eux, les enfants qui entrent dans un lycée mais qui ne vont pas jusqu'au bout, qui abandonnent en cours, une sorte de retrait social qu'on voit chez les enfants. Et puis un autre aspect, un aspect d'une violence plus directe, des enfants qui explosent de rage, de colère, qui ne peuvent plus contrôler leurs émotions, des affaires de délinquance juvénile, de jeunes adolescents ou adolescentes qui attaque physiquement autrui. Voilà la situation à laquelle nous assistons. Au niveau de l'apprentissage lui-même, on voit des enfants qui tournent le dos à cet apprentissage. On entend régulièrement parler d'une baisse de niveau dans l'enseignement japonais et on dit que l'on voit de plus en plus de classes qui ne peuvent plus fonctionner, même à l'école primaire. Dans les premières classes de l'école primaire, il y a un tel problème d'agitation et d'indiscipline que la classe elle-même, que le cours lui-même n'est pas possible. Voilà, j'ai résumé les choses en brossant un tableau schématique à gros traits, mais moi-même et les adultes au Japon, quand nous voyons les enfants dans cet état, nous ne pouvons que nous dire que ces enfants connaissent une véritable crise dans leur développement en tant qu'être humain. Mais en même temps, comme je l'ai dit à l'instant dans mon travail, je dialogue avec les enfants, ils viennent me voir pour prendre conseil auprès de moi, et mon sentiment personnel de la situation, c'est qu'il ne suffit pas de dire « Oh, les enfants d'aujourd'hui, eh bien, ils ne valent plus rien, ce ne sont plus de bons enfants ». Dans la société japonaise, où les enfants doivent vivre et grandir, ils accumulent jour après jour, à un stade très précoce, beaucoup d'irritation, beaucoup de dégoût, d'inquiétude, de crainte. C'est ce que je ressens dans mes contacts avec les enfants. Ils sont dans un espèce d'état de saturation et toute cette irritation, ce dégoût, cette inquiétude, cette peur accumulée explose parfois. Les enfants s'en prennent à eux-mêmes ou à autrui. En même temps, ces enfants qui accumulent toutes ces émotions négatives, est-ce qu'ils peuvent devenir adultes, passer à l'âge adulte dans cet état? Comment vont-ils pouvoir vivre? Et je crois donc que le problème, on peut l'aborder sous un autre angle. On peut dire que dans la société japonaise, ce problème de la façon de vivre, comment vivre pour les enfants, est un problème qui va en se diffusant dans toutes les strates de la société japonaise et en s'approfondissant. Les enfants, en fait, qui accumulent cette irritation, ce dégoût, cette peur, cette angoisse, ils ont besoin, ils ont envie de rencontrer des adultes prêts à les écouter et prêts à réfléchir avec eux à cette question « comment vivre ?». Je voudrais vous expliquer peut-être de façon un peu plus concrète ce que veut dire cette question « comment vivre pour les enfants ?», cette question qui est de plus en plus présente, de plus en plus lancinante, et je voudrais le faire en abordant 5 points. Un premier point, comme je le dis depuis quelques instants, les enfants en grandissant au Japon accumulent en eux des pulsions d'agressivité, agressivité envers leur propre personne, agressivité envers autrui. Et eux-mêmes s'interrogent sur le pourquoi de cette agressivité. Est-ce qu'il est possible de contrôler cette agressivité? Est-ce qu'il est possible de la maîtriser pour vivre en tant qu'être humain? C'est une question que les enfants se posent eux-mêmes de plus en plus. Un deuxième point, j'ai parlé de ces problèmes de brimade qui sont très présents dans notre société. Brimade, ça veut dire d'un côté victime et puis de l'autre côté bourreau, celui qui perpètre les brimades. Et c'est pourquoi les enfants recherchent, s'interrogent sur la possibilité de relations d'amitié plus libres, des relations d'amitié où il y aurait à la fois plus de liberté et plus de quiétude, plus de tranquillité. Un troisième point qui est lié à la sexualité et qui est un problème qu'on trouve certainement partout à travers le monde, les enfants grandissent, se développent et avant ou avec l'arrivée de la puberté, il y a maturité sexuelle et donc angoisse. Comment faire face à ces angoisses? Comment les intégrer dans un processus de développement de l'être humain? C'est là encore une question très forte que se posent les enfants. Quatrième question pour les enfants, le choix d'un métier, d'une profession, est-ce qu'ils vont pouvoir faire vraiment le travail qui leur convient, qu'ils ont envie de le faire, et même avant cela, est-ce qu'ils pourront avoir un métier qui leur permettra de prendre leur indépendance? Dans notre monde néolibéral, la question se pose partout. Le choix d'une profession, d'un métier, c'est quelque chose qui ne va pas sans angoisse, sans difficulté, et c'est donc là une autre question d'importance pour les enfants. Enfin, un dernier point, ces quatre questions que je viens d'énumérer, ce ne sont pas des questions que se posent les adultes qui s'occupent des enfants. On peut voir des enfants, dès les dernières classes de l'école primaire, se poser ces questions. Ils veulent y réfléchir, ils veulent y avoir des réponses. Et cette problématique existe chez les enfants à un stade très précoce. Je crois que c'est l'une des caractéristiques de la société japonaise d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, on peut dire que les enfants d'aujourd'hui, ils ont un désir de savoir, un désir d'apprendre qui me semble à moi plus fort que jamais. Quand je pense à ce qu'était ma propre enfance, est-ce que je me posais des questions aussi larges ou aussi profondes sur la vie? Je n'en suis pas sûre. Le désir de savoir, de réfléchir est donc très présent chez les enfants. Et pourtant, comme l'a dit Monsieur Holyoake, comme je l'ai dit moi-même à l'instant, ces enfants qui veulent apprendre, ils sont de plus en plus nombreux à tourner le dos, à se désintéresser de l'apprentissage scolaire. Ils souhaitent apprendre, ils ont ce désir intellectuel, ils veulent réfléchir à leur vie, à la façon de vivre, mais l'apprentissage, le savoir qu'on leur apporte à l'école, ne répond pas ou répond de moins en moins à ce besoin, à ce désir. Donc plutôt que de dire aujourd'hui, ah, les enfants d'aujourd'hui, ce n'est plus les enfants d'autrefois, les enfants d'aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas quoi en faire, il faut réfléchir à l'échelle de la société japonaise à un changement qualitatif de nos écoles. Voilà. C'est donc la façon dont je perçois la situation japonaise, dont je perçois le sort qui est fait aux enfants dans notre société. Et puisque moi-même, je souhaite réfléchir à des réformes de l'éducation dans mon pays, j'étais très intéressée, Monsieur Mérieux, par vos différentes interventions. Et pour approfondir un peu le débat, je me propose de vous poser un certain nombre de questions. Une première question, c'est de vous demander en fait de me rendre un peu l'appareil. Je vous ai parlé de la façon dont je percevais l'état, la situation des enfants et des adolescents au Japon. J'aimerais que vous me disiez ce qu'il en est en France. Bien sûr, j'imagine que c'est une question trop complexe pour y répondre en bloc, mais en quelques mots, comment se portent les enfants, les adolescents français? Au Japon, dans cette situation de néolibéralisme que nous vivons, il y a de nombreuses déchirures dans les relations au sein de la société et les enfants sont confrontés à des conflits émotifs, des conflits passionnels. Donc, l'enseignement doit leur apporter non seulement un savoir, mais peut-être aussi quelque chose qui les aide en tant qu'êtres humains à gérer, à contrôler ses émotions et ses passions. Vous avez parlé de l'importance d'une éducation à la citoyenneté, mais on a peut-être aussi besoin de réfléchir à une éducation à l'humanité, à l'état d'être humain. Alors, les rapports entre le citoyen et l'être humain, c'est une grande question, une question fondamentale depuis Rousseau. Mais quand on pense à la situation, à l'état dans lequel se trouvent nos enfants, nos adolescents, quand on pense à ces enfants qui tournent le dos à l'apprentissage scolaire, eh bien, on est forcé de se dire qu'ils connaissent des conflits et que un des buts de l'éducation, c'est aussi de les aider, de les accompagner dans la gestion de ces conflits. Nous avons donc besoin de construire une éducation qui puisse assurer cette prise en charge. Je reformule peut-être la question et poser deux en même temps. Donc, pour faire le tri simplement, une première question sur l'état des jeunes Français, leur comportement, leur mode de vie. Et une deuxième question sur le lien ou sur la séparation entre l'éducation à la citoyenneté et l'éducation à l'état d'être humain, à la façon d'apprendre à gérer ses passions et ses émotions. Troisième question. Que demande-t-on aux enseignants qui doivent prendre en charge ces enfants qui ne savent pas très bien comment vivre, ces enfants qui connaissent tous ces conflits émotionnels. Moi, à mon avis, les enseignants doivent avoir une capacité à imaginer la vie des enfants, à comprendre d'abord quelle a été leur vie jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'enseignant, à comprendre comment leur monde mental s'est construit, et puis à imaginer aussi quelle va être la suite de l'existence que va mener l'enfant qui est devant eux. Il y a cette capacité d'imagination qui, à mon avis, est nécessaire chez les enseignants. Et j'aimerais savoir, Monsieur Mérieux, quel est votre avis, qu'est-ce que l'on demande aux enseignants ? Merci.